Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le retour au papier et au stylo. Ce matin, plus possible d'envoyer les messages via les espaces numériques de travail dans les établissements scolaires pour éviter les menaces. Au moins 340 partout en France depuis la semaine dernière. Des forces de l'ordre étrangères au soutien des forces de l'ordre françaises cet été pendant les Jeux. Plus de 2000 policiers et gendarmes et militaires étrangers seront en France. Et 466 millions d'euros, c'est le montant record des fraudes détectées et évitées pour l'assurance maladie l'année dernière en France.
Et puis ces menaces sur les établissements scolaires, on y reviendra à 7h40 avec mon invité, le secrétaire général du syndicat des proviseurs. Il nous parlera aussi évidemment du proviseur de Maurice Ravel à Paris qui a dû quitter son poste pour préserver sa sécurité. Toutes les régions sont touchées par ces menaces visant les établissements scolaires et une première mesure est prise.
Oui, 20 des 30 académies en ont recensé, au moins 340 au total depuis le milieu donc de la semaine dernière via les messageries des espaces numériques de travail des élèves, ce qu'on appelle les ENT, que la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, pour la messagerie a décidé de suspendre au moins jusqu'aux vacances de printemps. Caroline Philippe, vous nous dites que c'est un soulagement.
Une suspension attendue.
C'est sage.
Carole Zerbib est proviseur au lycée Voltaire à Paris et membre du syndicat national des personnels de direction SNPDEN UNSA.
Ça va permettre peut-être de retrouver un peu de sérénité dans les établissements et de protéger aussi les personnels, les élèves de ces attaques et surtout des images violentes qui ont été proposées aux élèves et qui sont traumatisantes.
La suspension de la messagerie des ENT signe le retour temporaire des carnets de correspondance, voire des coups de fil aux parents si nécessaire.
L'éducation nationale fonctionnait avant l'ENT.
Des perturbations marginales pour Maxime Répert, enseignant et vice-président du syndicat national des écoles, collèges et lycées.
Cette suspension, forcément, elle va entraîner une gêne. Elle va peut-être même perturber un petit peu la bonne communication. Ceci étant, si derrière, on se retrouve avec un outil qui est bien renforcé en termes de sécurité, alors il est évident qu'il faut le faire.
La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, promet justement de réinitialiser les comptes des élèves et de sécuriser davantage l'accès à la messagerie des ENT pendant cette période.
Et c'est dans ce contexte, avec une menace terroriste au niveau le plus élevé, qu'on apprend que la France a fait appel à plus de 2000 policiers, gendarmes et militaires étrangers pour la sécurité pendant les Jeux Olympiques. C'est la Pologne qui a vendu la mèche en quelque sorte hier. Romain Cluzel, vous avez des précisions sur ce déploiement de forces de sécurité étrangères.
La France a envoyé ses demandes en début d'année et vise large. 46 pays sollicités et au total plus de 2000 renforts attendus de l'étranger. C'est une pratique courante pour de grands événements internationaux. La France avait par exemple envoyé des agents au Qatar pendant la Coupe du Monde en 2022. Ces agents étrangers seront systématiquement en binôme avec un agent français, précise le ministère de l'Intérieur. De nombreux pays ont déjà fait des propositions et dans l'exemple de la Pologne, 40 policiers et gendarmes ont été mis à disposition, mais aussi 13 équipes avec des chiens renifleurs. D'après le gouvernement polonais, ils seront notamment chargés de la détection d'explosifs et de la lutte antiterroriste. Selon le ministère de l'Intérieur français, la proposition de la Pologne est actuellement à l'étude.
Le mystère reste entier dans les Alpes de Haute-Provence, 9 mois après la disparition du petit Émile dans le village du Auvernais, où la justice a organisé hier une mise en situation à huis clos avec 17 personnes qui étaient présentes le jour de la disparition. Hier soir, le maire du village, François Balic, ne comprenait toujours pas comment ce mystère pouvait rester entier.
Je me demande comment un petit garçon comme Émile a pu disparaître, comment à notre époque, avec tous les moyens scientifiques dont disposent les enquêteurs, on ne puisse pas connaître la raison de la disparition d'un enfant. Pour nous, c'est traumatisant parce que c'est un petit garçon, beaucoup le connaissaient. On est quand même sous le choc depuis le 8 juillet. Ce que je souhaite vraiment pour la commune et pour ses habitants, c'est qu'on trouve la cause de la disparition d'un enfant.
Plus de 1300 interpellations en 10 jours. Voilà le bilan des opérations Place Nette contre le trafic de drogue. Les opérations du gouvernement lancées d'abord à Marseille, puis dans la foulée à Lille, Lyon, Dijon, Clermont, Limoges, en région parisienne aussi, à Colombes et Sevran, selon le ministère de l'Intérieur. Autre chiffre ce matin, je vous le disais, 466 millions d'euros. Ça, c'est le montant record des fraudes détectées et évitées pour l'assurance maladie l'année dernière en France. en hausse de 50% sur un an. Les professionnels de santé à l'origine des deux tiers du montant de ces fraudes. Alors sur les 466 millions d'euros dans le détail, 34 millions de fraudes sont imputées aux transporteurs sanitaires. C'est un montant qui a triplé sur un an. Il y a manifestement des abus, Marion Gauthier.
Certains facturent à l'assurance maladie des trajets qu'ils n'ont pas effectués ou les allongent et déclarent des kilomètres qu'ils n'ont pas parcourus. Toute la profession en pâtit, regrette la Fédération des artisans taxis, et Jérôme Barranger, son vice-président, s'agace de l'inertie des autorités.
Ça fait des années et des années qu'on souhaite plus de transparence, mais on n'avance pas. Quand vous trouvez trois contrôleurs pour tous les départements et qu'ils doivent contrôler toutes les professions, comment voulez-vous qu'ils y arrivent ?
Les contrôles doivent être renforcés dès les prochaines semaines, des agents recrutés et un système de géolocalisation déployé. Depuis novembre, près de 20% des ambulanciers et véhicules sanitaires légers se sont équipés d'un boîtier GPS, témoigne Yann Kerlo. Il est administrateur de la Fédération des ambulanciers privés.
Lorsqu'on facture un trajet, on joint le relevé de géolocalisation du véhicule avec des horaires, des lieux de prise en charge et des lieux d'arrivée, ce qui fait que la fraude ne peut plus se faire de toute façon.
L'enjeu est immense pour l'assurance maladie. Si 34 millions d'euros de préjudice ont été détectés en 2023, elle estime que le montant de la fraude au transport sanitaire s'élève à 240 millions au total.
Une première grue déployée aux États-Unis dans le grand port de Baltimore pour dégager les débris du pont qui s'est effondré en début de semaine. Grand port qui restera fermé pendant longtemps, hein, préviennent déjà les autorités américaines. Le début du week-end de Pâques, ce vendredi, journée classée orange sur la route au niveau national, même rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera rouge lundi pour les retours dans tout le Nord-Ouest. Week-end de Ligue 1 en foot qui commence par un choc ce soir entre Lille et Lens, 21h sur RMC, et qui se terminera aussi par un choc, le choc même du foot français entre Marseille et Paris au Vélodrome, avec un record d'affluence annoncé à Marseille, et plus généralement des stades pleins cette saison en Ligue 1. La moyenne est à quasiment 27 000 spectateurs pour chaque match, en hausse de 12% à la mi-saison par rapport à l'année dernière, à Valentin Jamard.
La hausse la plus nette est au Havre, promu en Ligue 1, plus 115% d'affluence par rapport à la saison passée.
Il y a de l'ambiance, il y a des animations, on s'ennuie pas.
On sent sécurité, c'est une ambiance familiale.
Ça ouvre à 13h, il y a toujours des petits spectacles.
On vient pour le foot, on revient aussi pour l'accueil, les DJ, les fanzones comme à Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, puis engagé en Coupe d'Europe, avec presque 1000 fans de plus par match, explique le directeur marketing Sébastien Duhamel.
Si on ne communique pas, bah on est dépendant du résultat. Et c'est fondamental de comprendre que l'expérience, elle commence quand les gens rentrent dans leur voiture et qu'elle termine quand ils sont rentrés chez eux. Notre job, c'est de rendre notre produit plus désirable. Éliminer au maximum les irritants, garer sa voiture, passer les contrôles d'accès, faire la queue à la boutique.
Le nombre de femmes dans les stades est historiquement élevé et la Ligue encourage aussi en distribuant de nouveaux labels, restauration ou accueil, organise des séminaires auxquels participe Clément Calvez, directeur du développement du Havre.
Pouvoir se confronter aux autres clubs, comment tu fonctionnes, comment tu gères tel problème, c'est incitatif. Les recettes naturelles d'un club sont extrêmement importantes pour son développement et ça va nous permettre de grandir.
Il reste le problème des no-shows. Près de 20% des détenteurs de billets ne viennent pas au match en Ligue 1 mais sont comptabilisés dans les affluences.
Bon, et donc Marseille-Paris, dimanche soir, journée spéciale sur RMC. Mmh. RMC qui sera en direct, bien évidemment.
Charles est déjà en spécial.
Oui, ça,
oui, c'est le week-end spécial pour moi. Mais oui, sur RMC, c'est dimanche, la journée spéciale, l'after.
Je vous ai entendu ce matin avec Momo, Charles. Vous allez refaire le match lundi matin?
Évidemment, lundi matin, soyez nombreux. Au 32-16, ce sera, je sais pas, le before, enfin après l'after.
Ouais,
il y a la
ça.
Libre antenne le soir. Enfin bref, ça ne s'arrête pas sur RMC.
Il est 7h09.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, on part en Mayenne où un groupe Facebook devient le symbole des difficultés financières des Français. Un groupe de troc où on échange désormais des meubles contre de la nourriture, des packs de lait, des kilos de riz, contre une vieille chaise ou une table basse. Ben voilà, la créatrice de ce groupe est notre témoin du jour sur RMC. Elle témoigne de ses trocs pour la nourriture.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 sur RMC.
Le témoin RMC.
Échange table basse contre chocobon et pack de lait. Oui, oui, cette annonce, elle était sur la page Facebook que vous avez créée. Élodie Goupil, bonjour. Vous êtes la créatrice d'un groupe Facebook qui rencontre un franc succès. Vous habitez en Mayenne et au début, c'était un groupe de troc que vous avez mis en place. Un groupe de troc, je dirais, comme les autres. Sauf qu'avec l'inflation, vous avez vu apparaître des annonces comme celles que je viens de décrire, c'est-à-dire des annonces où on échange désormais des meubles, des vêtements contre de la nourriture, des packs de lait, des kilos de riz, des sacs de bonbons.
Oui, c'est ça. À la toute base... c'était troqué contre quelque chose, histoire de pas jeter à la poubelle et de récupérer quelque chose de son objet. Et là, c'est parti depuis quelques temps. Maintenant, ça doit faire un peu plus de 2 ans, c'est vraiment pour majorité que de l'alimentaire.
Que de l'alimentaire, c'est-à-dire on donne ces vieux meubles en échange d'avoir de la nourriture. Ça s'est fait progressivement. Est-ce que ça a été moralement facile pour les uns et les autres de se mettre à demander au fond de la nourriture alors que jusqu'alors c'était un troc de vieilles affaires ou d'objets?
Eh ben, je pense que si vous aviez à demander de la nourriture, vous seriez à l'aise. Ben là, c'est pareil.
Ouais,
en fait, la nourriture, c'est un besoin premier, en fait. Donc, quand vous avouez quelqu'un que vous n'arrivez pas à manger et que vous avez besoin d'aide, votre fierté, elle en prend un coup, quand même.
C'est très dur. Et je revenais sur cette annonce parce que... Elle m'a particulièrement bouleversée, cette annonce Chocobon et Pâques de lait contre Table Basse, parce que en fait derrière Chocobon et Pâques de lait, on entend la famille. On imagine la famille qui veut quand même faire plaisir aux enfants. Il y a le lait qui est une nécessité et il y a les Chocobons pour essayer de se rajouter un peu de plaisir. Est-ce qu'il y a des habitués de votre groupe Facebook? Est-ce que c'est devenu une habitude? Est-ce qu'on va jusqu'aux derniers objets qu'on a dans la maison pour pouvoir manger?
Bah après je peux pas vous dire, je suis pas chez eux. Par contre oui, on a des habitués qui postent régulièrement. Ça peut aller d'un paquet d'élastiques pour les cheveux à des meubles, à des vêtements, à des jouets. En fait, il y a vraiment de tout. Si vous cherchez quelque chose, je crois qu'on est un des plus grands magasins où vous allez vraiment trouver de tout.
Ça vous a surpris d'abord ce succès globalement de cette page que vous aviez créée initialement, voilà, en vous disant ben on va se mettre quelques-uns pour troquer.
Ben ouais, parce qu'on reste quand même en Mayenne, donc j'ai envie de vous dire la Mayenne, il y a quand même plus de vaches que d'habitants, donc en général elle poste pas. Donc quand on a vu ça, on s'est dit mais ça part dans un délire. Là, on est rendu à, je sais plus, je crois qu'on est 10 600, quelque chose comme ça.
Et je vous sens d'ailleurs assez partagé, en vrai, Élodie Serk, à la fois. Je pense que vous êtes, vous vous dites c'est utile et c'est bien que ça se soit à ce point développé. Mais quand vous voyez que désormais c'est aussi beaucoup pour des nécessités vitales de nourriture, on vous sent à la fois fier d'avoir développé tout ça et en même temps inquiète quand même de la tournure que ça prend.
Ben ouais, parce qu'en fait je me dis, et si un jour je voulais arrêter et que je fermais le groupe, comment on fait? Parce que moi je n'ai même plus les libertés de me dire bon ben maintenant j'arrête parce que voilà, ma vie privée prend plus de place ou quoi que ce soit. Je peux pas faire ça en fait, parce que c'est tellement devenu un indispensable que ben, c'est pas possible en fait.
Pourquoi vous l'aviez ouvert vous au départ, Élodie Goupil? Quelle était votre situation à vous?
Au départ, j'étais un peu comme je suis là, sauf que maintenant je suis en couple, je suis en invalidité. Ouais. Donc je touche très peu. Ouais. Et des choses me donnaient envie, comme tout le monde, sauf que j'avais pas les moyens de les acheter. Mais j'avais quand même beaucoup de nourriture à la maison. Donc je me suis dit, je vais essayer d'échanger, voir si ça intéresse quelqu'un. Et bah, du coup, c'est parti de là, en fait.
D'accord, c'est parti de là. Et au fond, c'est des gens qui ont le même genre de profil et qui sont arrivés à peu près comme vous. On a senti qu'à la fois vous vouliez en parler parce que vous estimez que c'est aujourd'hui vraiment le symbole de ce qui se passe un peu en dehors des radars. C'est-à-dire que nous, on passe nos journées à parler de ce qui se passe dans le supermarché. Je reçois Monsieur Leclerc, je reçois Monsieur Super U. Mais au fond, il y a aussi, en dehors des radars, entre particuliers, ce genre d'échange dont vous êtes aujourd'hui la première témoin, Élodie Goupil. Et en même temps, en en parlant, vous vous dites, il faut que ça se développe, mais peut-être pas trop, quoi.
C'est exactement ça. En fait, depuis que tout le monde s'y intéresse, nous, on récupère encore du monde derrière. Donc, c'est pas que je veux pas des gens, je vais pas les jeter, mais le souci, c'est que nous, on se retrouve avec encore plus de travail derrière.
Vous touchez rien là-dessus, Élodie Goupil? Vous touchez rien sur ces transactions de fait, puisqu'il n'y a pas d'argent qui passe?
Non, je touche rien du tout. Donc, je suis aussi dans la précarité que certains, en fait. Mais je touche rien et ça prend énormément sur la vie privée. Donc là, ça va commencer à être compliqué avec l'arrivée d'un bébé. Je ne sais pas trop comment on va gérer tout ça.
Mais ça, c'est une très bonne nouvelle, Élodie. Je n'avais pas cette nouvelle-là. qui est l'arrivée d'un bébé.
Et vous savez comment elle va s'appeler?
Non.
Pauline.
Oh,
je vous jure que c'est vrai.
c'est une merveilleuse nouvelle, ça, Élodie, un bébé qui arrive. C'est merveilleux. Je sais pas quoi vous dire. Si, je suis émue parce que de toute façon, dès qu'un enfant arrive, je trouve ça toujours émouvant. Et puis c'est
une petite Apolline en plus.
Une petite Apolline. J'espère être sa bonne fée. J'espère être sa bonne fée.
J'adore ce prénom.
C'est super,
super doux à l'oreille.
Ça me fait très plaisir. Bravo à vous et effectivement tenez bon parce qu'on le sent bien. Vous avez aussi transformé et quand même accompagné le quotidien de beaucoup. Et dans un sens, comme vous le dites, j'ai commencé, j'étais seule, puis j'étais en couple et puis maintenant vous nous annoncez l'arrivée de cette petite. Belle journée à vous, Élodie, et merci d'avoir témoigné aussi, Élodie Goupil, donc créatrice de ce groupe Facebook en Mayenne. 7h18 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans 20 minutes, le syndicat des proviseurs qui a choisi RMC pour sa première réaction après ce qui s'est passé au lycée Ravel. On aura des nouvelles du proviseur qui a été menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile au sein de l'établissement. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec le trio de l'info du vendredi. Guillemette Franquet pour RMC s'engage avec vous. On va parler de MaPrimeRénov. Et puis c'est déjà l'été avec Manu qui nous emmène au camping. Et on va prendre le train, tiens, avec Arnaud Demange qui pirate le face-à-face puisque mon invité ce matin, c'est le patron de la SNCF.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses du Classico OM PSG, c'est dimanche. Bonjour Nicolas Pelletier.
Bonjour Apolline.
Les supporters du PSG vont devoir suivre le match sur RMC car ils sont interdits de déplacement de Marseille à Marseille. Les Parisiens sont pas prêts de mettre un pied au Vélodrome avant un bon moment, Nicolas.
Oui, ça fait 15 ans que les supporters parisiens attendent un déplacement au Vélodrome pour un match de championnat. 15 longues années et la tendance ne change pas. Les autorités sont toujours opposées à voir des supporters adverses dans un classique. Les policiers spécialisés confient qu'ils n'ont pas encore de gage de confiance pour autoriser un tel déplacement. Ça demanderait aussi des moyens humains conséquents. Selon nos informations, dimanche soir, plus de 500 policiers et gendarmes seront mobilisés alors qu'il n'y a pas de supporters visiteurs. Il faut aussi que les supporters se responsabilisent, répète Thibaut Delaunay à la tête de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme. Son service reconnaît une aggravation des violences depuis le début de saison en Ligue 1, mais pas une augmentation. Ces policiers spécialisés constatent surtout un déplacement des faits de violence à l'extérieur des enceintes sportives. Certains interlocuteurs sont aussi très craintifs avant la tenue de la finale de la Coupe de France à Lille dans quelques semaines. C'est assez rare qu'un tel événement se déroule en région. Un très gros dispositif de sécurité devrait être mis en place pour cet événement. Petite lueur d'espoir pour les fans de football, la rencontre entre Lille et Lens, pourtant classée à très haut risque ce soir, se tiendra avec des supporters lensois en parkage. Elle est notée 4 sur une échelle de 5 par les services spécialisés. Preuve aussi que la discussion entre toutes les parties peut aussi fonctionner.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Guillemette Franquet, Manu Bonjour. Le Chypre, Arnaud Demange.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. Guillemette, on va commencer avec vous. Vous revenez aujourd'hui sur MaPrimeRénov, un dossier que vous suivez depuis plusieurs années déjà.
Absolument. Alors, petit rappel, hein, MaPrimeRénov, c'est une aide financière publique versée sous condition lorsque vous faites des travaux de rénovation énergétique chez vous. Cette aide existe depuis 2020, mais dès l'année suivante, des auditeurs nous ont alertés sur des failles dans le système. C'est le cas de Sarah, cette maman du Tarn, qui a fait deux salves de travaux dans son ancienne, cette belle maison ancienne où elle habite. D'abord, le remplacement de sa chaudière, puis le changement de ses fenêtres. Mais voilà, son dossier était bloqué sans raison. Grâce à notre intervention, Sarah a pu toucher 1500 euros pour ses fenêtres. Mais l'enveloppe pour sa pompe à chaleur, elle, n'est toujours pas arrivée.
Je leur ai envoyé les devis, la facture et les avis d'imposition de 2020, de cette année. Mais les travaux ont quand même été faits en mars 2020. Donc le 16 mars 2024, ça a fait 4 ans.
Et il y a quelques jours, nouvelle frayeur, Sarah reçoit un mail l'informant que son dossier va être annulé. Voilà, annulé si elle ne finalise pas sa demande en ligne avant le 1er avril, soit lundi prochain.
On sait même plus quoi penser. Après, on n'a pas envie de lâcher. Mais 4 ans, ça commence à être long. J'ai eu toutes les phases, la phase énervée, déçue, compagnie. Mais là, j'ai juste pas envie de lâcher. Et je la lâcherai pas. Hein.
Mais le problème, vous le voyez venir, Sarah n'arrive pas à faire cette démarche en ligne. D'abord parce que le site a bugué, puis maintenant parce qu'on lui réclame sans cesse de nouveaux documents.
Alors MaPrimeRénov est gérée par l'Agence Nationale de l'Habitat. Ils répondent quoi sur le dossier de Sarah ?
Alors Alana, qui commence à bien connaître le dossier de Sarah, nous lui avons soumis dès cet hiver. L'agence s'est montrée rassurante auprès de nous. Le cas particulier de Sarah est bien suivi, nous dit-on. Elle ne doit pas tenir compte de la deadline du 1er avril. Dans la foulée, Sarah est recontactée. Et c'est bingo, terrible. Enfin, son dossier est finalisé depuis hier, voilà, pour une aide de 6 100 €. 2 100 € de moins que ce qu'elle imaginait, mais c'est quand même un énorme soulagement.
Et vous avez parlé de cette date limite, guillemets, le lundi 1er avril, pourquoi ?
Parce qu'en fait, à partir du 1er avril, le montant de certaines aides diminue. Par exemple, de 10 000 à 7 000 euros pour les foyers aux revenus très modestes qui font installer une chaudière à bois. Donc, si vous avez ouvert un dossier sans l'avoir finalisé, vous devez impérativement le boucler ce week-end, sinon il sera annulé et en cas de nouvelle demande, votre aide sera amputée.
Merci Guillemette. Économie, le secteur du tourisme, Manu, prépare la saison d'été. Et plus que jamais, bah, ça va être compliqué de trouver des saisonniers.
Oui, je ne sais pas si ce sera chaud dans les t-shirts et les maillots, mais en tout cas dans les campings, ça va manquer de bras. Ça va manquer de bras, puisque l'UMI, les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, bah, vous connaissez cette chanson d'Éric Chardin.
C'est Éric Chardin.
Voilà. Bon, ils nous disent que 200 000 saisonniers vont manquer à l'appel dans les hôtels et les restaurants. Enfin, ils manquent pour le moment à l'appel. Et la situation, donc, dans les campings, 10 000 paires de bras qu'on ne trouve pas pour le moment pour travailler dans les campings. Difficultés de recrutement qui compromettent l'ouverture et la viabilité de centaines d'établissements qui ne pourront pas ouvrir en totalité. Par exemple, il y aura moins de services de restauration, il y aura moins de jours d'ouverture, il y aura moins de chambres louées dans les hôtels, un accès limité aux terrasses, voire ces établissements ne pourront pas ouvrir du tout avec toutes les conséquences.
Pourquoi c'est si compliqué, Manu ?
Eh ben parce que les contrats des saisonniers sont en général plutôt quand même mal payés, que alors malgré les augmentations substantielles de ces dernières années, que les plages horaires de travail sont assez démentes, qu'il y a beaucoup d'heures sup non payées, un management plutôt plus agressif que la moyenne alors que le rapport au travail a changé. Parce que aussi la possibilité d'arrondir les payes avec les pourboires est rendue de plus en plus difficile par les contraintes de pouvoir d'achat. Dit autrement, les clients sont de plus en plus radins. Et puis plus dissuasif encore.
C'est mieux dit là, ouais, je suis d'accord.
Plus dissuasif, alors par volonté ou parce qu'ils ont pas.
Oui, parce qu'ils ont plus de sous. Autrement, hein.
Plus dissuasif encore, et c'est sans doute le problème numéro un, la difficulté de se loger. Vous ne pouvez pas engloutir toute votre paye de saisonnier dans votre logement. Et donc, bah, peut-être faudra-t-il encore se tourner hors des frontières, comme ça a été le cas depuis quelques années. Mais sur les 200 000 postes vacants, il se pourrait que 50 à 60 000 ne trouvent pas preneur, et ce sera très dommage.
Arnaud, mon invité ce matin, c'est le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
Non, mais non, la technique, faites un effort. Là, c'est pas la farandole, c'est le farandou qu'on reçoit ce matin. Votre invité qui vient donc pour l'interview de 8h45. Il va avoir un petit quart d'heure de retard. C'est la SNCF. C'est le patron du rail français. Avant, le patron du rail français, c'était Faudel. Et ben maintenant, c'est lui. C'est... du rail français.
Celui-là.
Mais c'est sympa de sa part à Jean-Pierre de passer nous voir à la veille d'un grand week-end de Pâques. Vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi saint, hein, c'est le jour de la crucifixion de Jésus, et dimanche, c'est Pâques, donc gros week-end. Bah, ce vendredi, Jean-Pierre, c'est comme Jésus, c'est pas le jour où il va rester les bras croisés. Jésus, à cause des clous.
Rapport à la croix.
Bah oui, les clous. Bien sûr. Bon, il a du boulot, Jean-Pierre. Néanmoins, pas de méga grève annoncée ce week-end. Par contre, pour les ponts du mois de mai, alors là, attention, là, pour le coup, Sudrail a prévenu, si la table ronde prévue le 10 avril avec la direction échoue, bah, les week-ends de mai, c'est ça qu'on va entendre dans les gares. Les voyageurs à destination de Rouen, attention, veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Voilà, encore un peu, voilà, encore plus loin. Allez, cassez-vous de notre gare et allez à Rouen à pied maintenant. Mais on peut compter sur Jean-Pierre Farandou pour bien mener les négociations. Il est rodé, hein, il est tellement rodé qu'Emmanuel Macron pourrait le nommer pour gérer le conflit Israël-Hamas, voire la paix en Ukraine, voire même une trêve humanitaire entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Ah, oui. Mais demandez-lui comment il résoudrait ce conflit. Tiens, c'est ça qui intéresse les auditeurs.
Ça sera ma première question.
C'est rendez-vous avec JP alors. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, on vous retrouve avant cela à 8h20. Il est 7h28. 7h31.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Nogent. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Information RMC ce matin, 27 tonnes de tabac de contrebande saisies, trois fois plus que l'an dernier grâce à un nouveau coup de filet d'ampleur des services de l'État. Un nouveau drame au Marineland d'Antibes, la mort d'une orque cinq mois après un premier décès. Une association va porter plainte. Et puis en attendant, Paris-Marseille dimanche soir, la Ligue 1 reprend par un choc ce soir. Lille lance avec 50 000 supporters attendus.
Et on commence avec cette saisie record de tabac de contrebande.
C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. 10 000 agents mobilisés pendant 8 jours pour une opération coup de poing menée par les services du ministère du Budget et des Comptes publics qui a donc permis de saisir 27 tonnes de tabac et de cigarettes. C'est trois fois plus que l'an dernier, Jérémy Trottin.
Oui, et l'opération baptisée Colbert 2 a été menée secrètement entre le 20 et le 27 mars à travers toute la France. Au total, près de 30 000 contrôles ont été réalisés par les douaniers, la police et la gendarmerie, 10 000 hommes mobilisés au total. Résultat, 27 tonnes de tabac contrefaits saisies, l'équivalent de 17 millions d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État. Le ministère du Budget et des Comptes publics veut aujourd'hui mettre la lutte contre la contrebande au même niveau que la lutte contre les stupéfiants. Ces deux filières alimentent les mêmes réseaux criminels, explique l'entourage de Thomas Cazenave. Auprès de RMC, le ministre se félicite de cette opération et salue le travail des services de l'État qui ont permis d'interpeller 108 personnes et de demander la fermeture administrative de 52 établissements.
Les espaces numériques de travail des collégiens et lycéens, tous suspendus jusqu'aux vacances de printemps, selon la ministre de l'Éducation nationale, qui souhaite qu'ils soient davantage sécurisés après la vague de menaces terroristes envoyées depuis ces messageries. On y revient juste après ce journal avec l'invité d'Apolline, Bruno Bobkevitch, le secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement SNPDEN. Par ailleurs, d'ici 15 minutes, début d'un rassemblement devant le lycée Maurice Ravel à Paris, en soutien au proviseur qui a démissionné à cause des menaces de mort qu'il recevait pour avoir demandé à une élève de retirer son voile.
7h33, c'est une décision inédite qui pourrait faire jurisprudence.
Dans le Finistère, une vingtaine de riverains vont être indemnisés pour les nuisances sonores et visuelles liées aux éoliennes installées près de leur maison. L'exploitant a été condamné par la cour d'appel de Rennes à leur verser 633 000 euros au total. Une victoire pour les habitants de Rospordun où Martin Cadoré s'est rendu pour RMC.
À travers les baies vitrées d'Annie et Christian, la campagne, mais aussi des éoliennes.
De ce côté-là, on voit les trois. Dans le salon, c'est pareil.
Je ne suis pas entièrement contre,
mais là, c'est vraiment dans le jardin.
La plus près est à 517 mètres.
À la limite des 500 mètres réglementaires. Nuisance visuelle, donc, mais aussi sonore.
Le bruit, c'est comme un avion en réaction qui passe. Ouf, ouf. La nuit, comme notre chambre est au sud aussi, donc on entend tout, quoi. Des fois, on met des boules casse. Hein.
Vous avez jamais songé à partir?
On y a pensé, hein. Qui va acheter ça?
Une maison qui a perdu 40% de sa valeur, 80 000 euros de perte. L'exploitant des éoliennes a été condamné à les indemniser. Une petite victoire, admet Annie, du bout des lèvres.
Ben oui, on aurait souhaité qu'elle ne se construise pas, mais là, ça c'est fait. Donc maintenant, oui, c'est positif quand même.
Une vingtaine d'autres riverains seront aussi indemnisés. Maître Sébastien Echezard les a défendus auprès de la cour d'appel de Rennes.
La cour, elle a motivé son arrêt en disant que ça nuisait à l'habitabilité des maisons. Et ça, c'est inédit à ma connaissance en tout cas.
Le feuilleton n'est peut-être pas fini. L'exploitant des éoliennes peut encore porter l'affaire devant la cour de cassation.
19 ans de prison requis contre celui que l'on surnomme le violeur de Tinder. On vous en parlait la semaine dernière sur RMC. Une peine justifiée par le nombre de victimes et la dangerosité de Salim Berada. C'est ce qu'a dit l'avocat général dans ce dossier. Salim Berada est accusé par 17 femmes. Verdict attendu dans la soirée. Nouveau décès d'une orque au parc Marineland d'Antibes. Inouk, 25 ans, a été retrouvé sans vie hier dans son bassin. L'association One Voice va porter plainte contre le parc qui a pris la décision de reporter la reprise des spectacles initialement prévu demain. Et ce nouveau drame inquiète autant qu'il indigne, Romain Houg.
En à peine 6 mois, au Marineland d'Antibes, 2 orques sont mortes sur les 4 que comptait le parc. Le tout alors que les spectacles de cétacés seront interdits en 2026. Christophe Guinet du CNRS, spécialiste de l'écologie des mammifères marins.
Les conditions de vie en captivité sont quand même très sensiblement différentes des conditions en océan. En termes de diversité du régime alimentaire, en termes d'espace, d'exercice, en milieu naturel, ces animaux peuvent parcourir jusqu'à 100-150 km par jour. C'est beaucoup plus compliqué dans un bassin.
De quoi inquiéter Christine Grandjean au sujet des 2 orques encore en vie. Elle est présidente de l'association Cétacé.
On n'a jamais voulu que les parcs se séparent des animaux dans l'urgence. Nous, tant qu'il n'y a pas de sanctuaire prêt à les accueillir, on préfère qu'ils restent in situ avec des spectacles qui ne soient pas délétères, mais à condition qu'il n'y ait plus de dessert, hein, parce que c'est facile de garder des cétacés puis de les laisser crever les uns après les autres.
Le parc Marineland affirme de son côté qu'une autopsie sera réalisée pour connaître les causes exactes de la mort d'Inouk.
7h36, c'est le derby du Nord. Ce soir, Lille reçoit Lens à 21h au stade Pierre-Mauroy en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Deux clubs en haut du tableau, deux clubs qui espèrent se qualifier pour la Ligue des Champions. De quoi pimenter plus que jamais la rencontre, Jean Baumel.
Oui, et pour l'instant, c'est le quatrième Lille qui a un petit point d'avance sur son voisin lensois. Et pour Franck, supporter lillois, l'objectif est clair, se qualifier pour la Ligue des Champions et empêcher Lens d'y accéder.
C'est ce qui va nous envoyer en Ligue des Champions, la victoire contre Lens. L'année dernière, on leur a enlevé le titre sur les deux matchs, les deux confrontations en derby. Et cette année, la victoire contre Lens va nous donner une place en Ligue des Champions.
Pour Max, supporter lensois, présent parmi les 5000 à la séance d'entraînement de mercredi matin, il n'y a pas photo entre le LOSC et son Racing Club de Lens.
La suprématie, on l'a déjà ici, dans le stade, partout, le Nord et Lensois, c'est tout.
Le capitaine du LOSC, Benjamin André, reconnaît que ce 118e derby est capital dans cette fin de saison.
Comptablement, c'est un match très important et c'est un match qui va forcément compter dans ce sprint final. Donc voilà, au-delà du derby, évidemment, c'est vraiment un match important pour nous et pour notre fin de saison.
Ce soir, les 50 000 supporters du stade Pierre-Mauroy, dont 1000 Lensois, espère avoir un match digne de la Ligue des Champions.
Et puis le quintet, c'est à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 14, Fleuron d'Acadie. Et l'outsider, c'est le numéro 6, Gardener Show. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean. Et on va partir tout de suite au 32-16 parce qu'il y a Céline qui nous appelle. Bonjour Céline.
Bonjour Apolline, bonjour à toute l'équipe.
Et Céline, vous avez composé le 32-16 parce que vous vouliez réagir à ce que nous racontait tout à l'heure Élodie qui a créé cette page Facebook en Mayenne, parce que vous aussi Céline, vous trouvez que le système D, non seulement ça se développe énormément, mais que c'est une très bonne chose.
Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai commencé il y a 5-6 ans et ouais. En fait, c'était surtout pour me débarrasser de tout ce que j'avais... De ma fille. Donc ça allait de la layette au jeu, en passant par les bouquins pour les enfants. Et comme j'avais besoin de rien en fait en troc, il y a une maman qui m'a dit qu'est-ce que t'as besoin dans ton placard. Et effectivement, j'ai ouvert un placard, j'ai dit écoute, j'ai plus de guide de livres. Donc ça a commencé comme ça en fait. Tout simplement
pour que ça devienne du troc contre de la nourriture.
Oui, voilà, alors que j'en ai pas besoin. Enfin, on n'en avait pas vraiment besoin. C'est juste une façon d'agrémenter aussi la liste de courses qui ne fait qu'augmenter, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et voilà, et en plus, on fait des super rencontres. Ça finit parfois sur des apéros avec les conjoints. Enfin, voilà, c'est vraiment...
Ils apportent la bouteille d'huile d'olive, mais ils apportent aussi le paquet de chips, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça permet de passer un bon moment. Mais voilà. Après,
et ça se développe, et ça se développe de plus en plus. Alors, Céline, vous avez l'air de le dire aussi en disant finalement, au fond, oui, c'est une manière de faire. Et puis, j'avais plus l'huile d'olive. Vous voyez, j'imagine, sur votre groupe Facebook, des gens pour qui c'est un peu plus vital encore.
Oui, moi, quand c'est comme ça, dans ces cas-là, quand la maman ou le papa sont isolés ou 3-4 enfants, des choses comme ça, je demande rien. Je donne. Tout simplement.
C'est ça. Vous donnez les anciens vêtements, vous donnez les anciennes chaussures, et puis vous donnez parfois même s'il y a trop de riz ou de lait dans le placard.
Ouais, c'est ça. Ou alors même, je vais faire un troc uniquement sur un jouet ou un mobile ou un truc comme ça, et avec je vais mettre des bouquins ou des trucs comme ça. Il y a toujours un petit plus, quoi, en fait.
Ouais, toujours un petit plus. Céline, je trouve ça formidable que vous le racontiez, vous, Élodie, parce que effectivement, comme je le disais, c'est un peu en dehors des radars, et c'est vos témoignages qui nous permettent aussi de savoir ce qui se passe, ces échanges qui se sont de plus en plus développés. Et en plus, il y a le côté sympathique. Merci, Céline, d'être passée par le 32-16. On vous souhaite une excellente journée. Et justement, Céline, vous allez peut-être porter chance, puisque vous l'avez entendu, c'est l'alerte coffre, et c'est aujourd'hui qu'ils sont à gagner ces 50 000 euros qui sont cachés dans le coffre RMC. L'alerte, elle va tomber régulièrement jusqu'à 8h30 tout à l'heure, jusqu'à l'heure d'ouvrir ce coffre. Vous avez donc 5 minutes à partir de maintenant. Il est 7h41, 5 minutes au top pour envoyer coffre au 732-16, vous inscrire et peut-être gagner tout à l'heure jusqu'à 50 000 euros avec RMC. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant.
6h39.
Apolline Matin.
Et dans un instant, les proviseurs en première ligne face à la contestation de la laïcité. On a beaucoup parlé, bien sûr, du proviseur du lycée Ravel à Paris, menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile au sein de son établissement. Mais il n'est pas le seul. D'autres proviseurs sont menacés. On y revient dans un instant avec le responsable du syndicat des proviseurs. Il a choisi RMC pour prendre la parole.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Bruno Bobkiewicz, vous êtes le secrétaire général du SNEPDEN, c'est le syndicat de tous les proviseurs. Les proviseurs, on n'en a jamais autant parlé que toute cette semaine, mais on vous a peu entendu, c'est la première fois que vous réagissez depuis ce qui s'est passé au lycée Ravel à Paris. Merci d'avoir choisi RMC pour vous exprimer. Le proviseur, on le sait désormais, a donc quitté son poste après des menaces de mort, alors qu'il avait demandé à une élève d'enlever son voile dans l'enceinte de l'établissement. D'abord, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il est soulagé aujourd'hui, s'il va mieux?
Ça reste une situation extrêmement compliquée puisque la tension reste forte. Les menaces ont été extrêmement violentes. Donc il est évidemment accompagné et soutenu par nos collègues. Il est accompagné par notre avocat qui effectivement aussi l'accompagne d'un point de vue notamment sur toutes les procédures. C'est insupportable d'avoir un collègue obligé de quitter ses fonctions parce que mis en danger dans l'exercice simple du principe de laïcité.
Vous le dites dans les démarches également. Alors on sait que l'élève en question qui dit elle avoir été violentée, ce que conteste totalement le proviseur, elle avait porté plainte. Sa plainte a été classée sans suite, la justice estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Mais cela dit, évidemment, il y a globalement une plainte qui a été lancée d'ailleurs de la part de l'État contre cette jeune fille. Et c'est peut-être d'ailleurs le proviseur lui-même qui va devoir la porter, cette plainte, parce que l'État ne peut pas porter plainte en son nom.
Oui, c'est ça. Mais il y a aussi l'idée que la jeune fille était revenue sur ses propos et que de toute façon, l'idée de départ qu'elle avait annoncée comme quoi elle avait été violentée par le chef d'établissement avait été rapidement démentie par elle-même le lendemain. Et puis, il y a toutes les plaintes en direction de ceux qui se sont exprimés violemment sur les réseaux sociaux et plusieurs situations ont été identifiées. Donc un certain nombre d'entre eux pour lesquels l'identité a été retrouvée vont passer devant les tribunaux dans les prochaines semaines.
Ils vont passer devant les tribunaux. Une dernière question sur ce point et sur cette jeune fille. Elle témoigne aujourd'hui en disant qu'elle travaille maintenant avec sa mère dans une école maternelle. Le fait qu'elle travaille dans l'éducation, ça, il n'y a pas de souci pour vous? Ça vous paraît une situation classique?
C'est une jeune fille qui a fait une erreur, qui a refusé le principe de laïcité à un moment dans sa scolarité. Elle doit effectivement répondre de ça. Ça la condamne pas définitivement toute sa vie sur des situations. On a aussi un rôle éducatif. C'est pas acceptable ce qui s'est passé. Je pense que la situation lui a aussi échappé derrière, notamment sur les réseaux sociaux. Elle doit répondre de ça, mais ça doit pas la condamner définitivement.
Et je précise d'ailleurs qu'elle a dit regretter les menaces de mort que cela a effectivement entraîné. Bruno Bobkiewicz, le rectorat avait au départ dit que le recteur avait quitté ses fonctions pour convenance personnelle, c'est l'académie qui l'avait dit. Ça avait fait beaucoup de bruit, cette expression. Est-ce que vous dites que c'est une expression malheureuse ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est une forme de pas de vague?
Non, je crois pas que c'est une forme de pas de vague. C'est une erreur de communication plus qu'une pas de vague. Je pense que l'État n'est plus sur cette logique de pas de vague. On le voit bien à quel point les expressions sont claires et le soutien est clair sur cette situation, mais aussi sur d'autres qu'on a pu connaître ces derniers mois. Ça n'est pas pour convenance personnelle. Tout le monde le sait. C'est surtout une mise en protection de ce collègue, évidemment, à la fois de façon concertée par le rectorat, mais aussi à la demande du collègue, on peut parfaitement le comprendre.
Dans quel état d'esprit sont les proviseurs aujourd'hui, plus globalement ?
C'est compliqué, évidemment, quand on voit que à trois reprises en moins d'un an, des chefs d'établissement sont mis en accusation et sont menacés de mort sur des situations un peu similaires. Forcément, c'est extrêmement déstabilisant. Mais le SNPDN que je présente est déterminé à continuer à porter au effort les valeurs de la République et le principe de laïcité. C'est extrêmement important pour nous. Il n'est pas question de reculer sur ces sujets.
Pas question de reculer sur ces sujets. Et quand vous dites ces trois situations, je précise qu'en effet, il y a eu le lycée Ravel, il y a eu aussi une situation similaire à Ivry et à Clermont-Ferrand. Un mot également, Bruno Bobkiewicz, sur l'annonce hier faite par la ministre de l'Éducation, les messageries des élèves, les fameuses ENT, les espaces numériques de travail, qui sont à la fois pour les élèves d'ailleurs et pour le corps enseignant, sont suspendues, ces messageries sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, pour renforcer la sécurité, parce qu'il y a eu de très nombreux piratages, des menaces, parfois des menaces d'intrusion dans les établissements, parfois même des vidéos qui ont été postées et ouvertes par ces élèves qui sont tombés sur des vidéos de décapitation. Ça a été d'une très très grande violence. Vous allez ressortir des carnets de liaison à l'ancienne, où il faudra écrire des petits mots. Ça vous rassure qu'au moins ces espaces numériques soient fermés, le temps au minimum de les sécuriser?
Oui, il fallait une réponse rapide d'urgence, effectivement de sécurisation. On va pas ressortir les carnets parce qu'il faut que cette situation ne dure pas trop longtemps non plus. On compte sur les opérateurs et les spécialistes pour faire le nécessaire au plus vite, parce qu'aujourd'hui les ENT prennent une place centrale, voire exclusive, dans la communication entre les parents, les élèves et les personnels. Donc ça va nous paralyser quelque temps, mais c'est nécessaire. Donc il faut le faire, parce qu'effectivement la priorité numéro un, c'est de pouvoir rassurer et de faire en sorte que les élèves, les personnels et les parents ne tombent pas sur un message de cette nature en cliquant sur leur ordinateur.
Merci Bruno Bobkiewicz d'avoir fait le point avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SNPDEN, qui est donc le syndicat qui représente les proviseurs de France. Merci à vous, 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, tout autre chose, ce sera expliqué-nous avec vous, Nicolas.
Et je vous explique pourquoi les fraudes détectées à l'assurance maladie ont augmenté de 50% l'an dernier.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Les fraudes détectées à l'assurance maladie ont augmenté de 50% l'an dernier. Ça représente près de 500 millions d'euros. C'est des sommes énormes, mais ça ne veut pas dire que le montant total de la fraude soit en augmentation.
Non, attention, le chiffre est trompeur. Ce qui augmente, ce n'est pas le nombre des tricheurs, c'est le nombre de ceux qui se font prendre. L'assurance maladie a publié hier son bilan pour l'année dernière. Elle a effectivement détecté et stoppé des fraudes pour un montant de 466 millions d'euros, soit 50% de plus que l'année précédente, mais tout simplement parce que la lutte contre la fraude progresse. L'assurance maladie emploie 1500 agents spécialisés, elle va en recruter 300 de plus. Elle est aussi en train de mettre en place des équipes de cyber-enquêteurs regroupées au sein de 6 pôles régionaux dans toute la France. Ces 60 enquêteurs seront des Sherlock Holmes de la fraude sociale. Ils auront des compétences de police judiciaire pour essayer d'infiltrer les groupes et les réseaux qui s'échangent sur Internet des faux documents ou bien des tuyaux pour abuser l'assurance maladie. Un nouveau service pour lutter donc contre les nouvelles fraudes, celles qui émergent sur le dark web et sur les réseaux sociaux.
Qui sont les plus gros fraudeurs?
Alors, ce ne sont pas les particuliers, ceux qui trichent sur les arrêts maladie, ceux qui essayent de se faire rembourser plusieurs fois ou ceux qui dissimulent un salaire pour pouvoir toucher une pension d'invalidité. Cela, ça représente seulement moins de 20% du montant de la fraude. Les vrais gros tricheurs sont donc les professionnels de santé. 70% des sommes détournées terminent dans leur poche. Les pharmaciens sont pointés du doigt. Leurs fraudes sont les plus importantes en montant, mais toutes les professions médicales et paramédicales ont leur mouton noir, les médecins généralistes et les spécialistes, les infirmiers, les centres de santé, les laboratoires ou encore les ambulanciers.
Certaines fraudes peuvent atteindre des énormes montants.
Oui, Le Monde l'an dernier avait recensé les condamnations les plus lourdes infligées aux fraudeurs. Une infirmière marseillaise a été condamnée à rembourser 720 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est ce qu'elle avait perçu en 5 ans pour des soins fictifs à seulement 3 patients, dont ses deux parents. À Nîmes, un médecin généraliste profitait de la visite d'un patient pour compter une consultation à tous les enfants inscrits sur la carte vitale et se faire payer ainsi 3 ou 4 ou 5 consultations au lieu d'une. Préjudice pour la Sécu, 200 000 euros. Dans le Val-de-Marne, une pharmacienne a été condamnée à 6 mois de prison ferme. Elle avait facturé 96 fois un médicament qui coûte 11 000 euros la boîte, sans jamais en avoir vendu un seul. Et elle a donc dû rembourser 1 200 000 euros. Au total, c'est entre 1 milliard et 1 milliard et demi qui sont détournés par les professionnels de santé, sans compter la fraude des laboratoires d'analyse et sans compter celle des particuliers. Ce sont donc des sommes énormes qui donnent le tournis, mais il faut les mettre en rapport avec le total de l'argent qui est versé par l'assurance maladie. C'est 246 milliards d'euros. La fraude représente donc environ 1% de nos dépenses de santé. L'assurance maladie a promis hier d'accentuer encore ses efforts pour coincer ceux qui profitent de la générosité de notre système. Les peines de prison peuvent aller jusqu'à 3 ans et les remboursements jusqu'à 3 fois les sommes détournées qu'on se la dise.
Les explications et l'alerte donc de Nicolas Poincaré. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal de 8h, vous l'entendrez. Le train n'a jamais coûté aussi cher, en tout cas c'est ce qu'en disent les voyageurs, vous les entendrez.